France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 24 février dernier sonnaient les 3 ans de l'entrée en guerre officielle de la Russie contre l'Ukraine. Officielle, car le conflit a déjà commencé il y a 10 ans, en 2014, lorsque la Russie a envahi le territoire du Donbass. Mais depuis 2 semaines, l'échiquier politique s'est totalement reversé dans de âpres négociations avec les États-Unis. Donald Trump s'est rangé du côté de la Russie, cette position s'incarnant dans l'altercation, l'humiliation même subie par le président ukrainien et fomentée par le président américain. Alors comment penser l'avenir de cette guerre, de ce conflit? Comment la philosophie peut-elle nous permettre aussi de la penser? Pour en discuter, Volodymyr Yermolenko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes président du Pen Club Ukraine, vous êtes également professeur associé à l'Académie Moyala de Kiev et le rédacteur en chef d'ukraineworld.org. Bienvenue sur France Culture.
Nous avons convenu que le Royaume-Uni, la France et d'autres pays travailleraient avec l'Ukraine à l'élaboration d'un plan visant à mettre fin au combat. Nous discuterons ensuite de ce plan avec les États-Unis et le ferons avancer ensemble. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était d'unir nos partenaires autour de cet effort visant à renforcer l'Ukraine et à soutenir une paix juste et durable pour le bien de tous.
Il est évident qu'il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas encore de cessez-le-feu, mais nous devons nous préparer à ce moment. Et nous devons nous assurer que les pays européens sont prêts à apporter leur aide en matière de garantie de sécurité. Bien sûr, l'initiative a été prise par le Royaume-Uni et la France, mais d'autres pays souhaitent apporter leur aide.
Il faut mettre l'Ukraine en position de force, lui donner les moyens de se fortifier et de se protéger. Cela va de la survie économique à la résilience militaire. Il faut transformer l'Ukraine en un porc-épic d'acier indigeste face aux envahisseurs potentiels.
Que s'est-il passé, Volodymyr Yermolenko, dans le bureau ovale vendredi dernier? Est-ce que c'était pour vous une altercation ou bien pire, comme je le précisais en introduction, une humiliation pour le président ukrainien?
Bon, je pense que c'est très mal ce qui s'est passé pour tout le monde. C'est mal pour l'Ukraine, c'est mal pour l'Europe, et c'est mal pour les États-Unis. Mais malheureusement, on voit que l'administration actuelle, elle s'approche, se rapproche de plus en plus à la Russie de Poutine. Et c'est ça qui, bien sûr, qui doit nous inquiéter énormément, parce que on voit que c'est pas juste la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est un combat des valeurs. On voit les systèmes des valeurs russes, les systèmes tyranniques, les systèmes verticaux qui s'opposent à ce que est très très cher et très important pour les Européens.
On sait bien comment les Européens, leurs représentants politiques, leurs responsables réagissent à l'éloignement américain, à cette distanciation de plus en plus prégnante entre les deux rives de l'Atlantique. Comment l'éloignement américain est-il perçu dans l'opinion ukrainienne, parmi les combattants également?
Écoutez, c'est très dommage. Donc, on attendait bien sûr les décisions catastrophiques de Donald Trump. Il y avait beaucoup de signes, beaucoup de symptômes que on peut avoir ce tournant. Mais à vrai dire, les Ukrainiens parlaient depuis 2014 et même avant que les ambitions de la Russie, c'est la guerre contre l'Europe. Les ambitions de la Russie, c'est la revanche contre la défaite dans la guerre froide. Et ces ambitions sont finalement de revenir vers le monde où l'Europe a été partagée entre l'Amérique et l'Union soviétique, si je peux dire, entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Et finalement, c'est ça qu'ils ont dit à 2021, juste avant l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'il faut revenir vers les frontières de l'OTAN des années 90. Donc, mais maintenant, ça devient de plus en plus clair que l'Ukraine, c'est pas un problème de l'Europe, mais c'est aussi une partie de solution, parce que c'est les Ukrainiens qui ont maintenant l'armée qui est assez forte pour se défendre contre les Russes et pour défendre aussi l'Europe entière.
Je voulais vous entendre évidemment également sur l'accord cadre entre Kiev et Washington sur les minets ukrainiens. L'accord cadre qui devait être signé justement vendredi soir à la Maison Blanche. Un texte qui prévoyait la création d'un fonds contrôlé par les États-Unis. Et ce fonds devait recevoir 50% des revenus issus de l'exploitation future de certaines ressources naturelles qui se trouvent en Ukraine. Des minerais, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz. Comment s'est vécu là aussi la potentialité de cet accord cadre en Ukraine, comment c'est vécu par les Ukrainiens, cette tentative, j'allais dire, pratiquement non pas de spoliation, mais en tout cas de mise en main, de prise en main des richesses naturelles de l'Ukraine par les Américains.
Oui, c'est ça, c'est un peu la politique néocoloniale et les États-Unis essayent maintenant de dire que voilà, nous sommes un nouvel empire qui mène les politiques néocoloniales comme des empires européens ont mené au 19e siècle. Donc bien sûr, le débat en Ukraine était très très difficile parce que on combat contre le néocolonialisme ou l'impérialisme russe et bien sûr on n'accepterait pas un néocolonialisme dans notre pays. Donc c'est-à-dire qu'on aspire vraiment à des relations égales. C'est-à-dire que bien sûr peut-être Zelensky, le président de l'Ukraine, attendait que cet accord sur des minéraux, bon, on va les négocier, on va peut-être le faire plus acceptable pour les Ukrainiens, mais ça va ouvrir la porte vers des accords de sécurité. C'est ça que les Ukrainiens ont besoin. Et c'était un peu le choc des Ukrainiens de voir une réaction absolument négative et agressive, je dirais, de la part de l'administration de Trump, qui consistait à dire, ben voilà, on fait l'accord sur les minéraux, mais on fait rien sur la sécurité.
Lorsque Donald Trump, le président américain, affirme, lance même que Volodymyr Zelensky est un dictateur sans élection, cela est évidemment faux, cela est grossier. Est-ce que vous pensez néanmoins, Volodymyr Yermolenko, qu'il est temps d'organiser en Ukraine des élections ?
Bien sûr, il faut organiser des élections quand il y a des conditions. Aujourd'hui, c'est très difficile de penser vraiment dans les termes pratiques les élections parce qu'il y a 7-8 millions des Ukrainiens qui sont à l'étranger. Il y a 1 million des soldats qui sont dans les tranchées. C'est très difficile d'organiser les élections partout en Ukraine parce que les Russes font des attaques de missiles et des drones chaque nuit. Et c'est littéralement chaque nuit, donc vers 11h, minuit, chaque nuit, on a des attaques de drones sur nous, même si on habite à Kiev, à côté de Kiev. Et bien sûr, dans les autres villes qui sont plus proches de la ligne de front, la situation est beaucoup plus difficile. Donc, imaginez-vous organiser des élections et puis avoir une attaque des missiles contre les boîtes, contre les bâtiments où les élections ont place, ou bien dans les zones frontalières où il y a des centaines de soldats qui vont venir à voter, ils vont être tapés par les missiles russes. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a la question de la mission des observateurs, c'est-à-dire si on fait le cessez-le-feu, si on fait la paix durable, si on termine la loi de la guerre et on réorganise le processus politique avec le débat politique, etc., ça, bien sûr, les élections seront possibles. Mais il faut avoir des conditions pour cela.
Vous-même, Volodymyr Yermolenko, vous n'êtes pas toujours tendre avec le président Zelensky. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Quel est le cœur des critiques que vous lui adressez aujourd'hui ?
Ah non, bien sûr, je suis pas tendre vers lui du tout. Donc, je suis parti de cette société des Ukrainiens qui est très critique par rapport à leur gouvernement. Donc, les Ukrainiens sont normalement assez critiques par rapport au gouvernement de Zelensky. Je pense que le président a sous-estimé le rôle des institutions depuis longtemps. Elle a sous-estimé aussi le rôle d'une discussion démocratique et parfois des persécutions contre ses opponents. Ils sont assez inquiétants. Mais malgré tout cela, C'est très paradoxal, c'est que quand on a cette situation, quand Zelensky a attaqué de façon très brutale par l'administration de Trump et bien sûr par l'administration de Poutine, même les gens qui sont très critiques par rapport à lui se rassemblent finalement autour du président parce que c'est la consolidation nationale qui est très importante pendant la guerre.
Je reviens tout de même un instant sur ce que vous disiez au début de votre réponse, à savoir que Volodymyr Zelensky était peut-être, avait commis peut-être quelques erreurs dans son rapport à la démocratie. Dans le même temps, vous nous expliquez que cette démocratie, elle était en temps de guerre extrêmement compliquée à faire vivre, à rendre concrète, à rendre vivante. Comment lui reprocher alors justement ce lien distendu entre sa personnalité et le système démocratique ukrainien ?
C'est très difficile de penser sur la démocratie pendant la guerre. Donc on n'a pas de réponse là-dessus. On a peut-être des parties de réponse des Royaumes-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais même le Royaume-Uni a été attaqué, bien sûr, du ciel, mais... Les batailles n'étaient pas sur le sol du pays. Donc c'est très difficile parce qu'il y a toujours la question où est l'équilibre entre la liberté et la sécurité, où est l'équilibre entre vraiment les droits de l'individu et une nécessité de se consolider. Donc on n'a pas des réponses et on cherche cette réponse chaque jour, chaque mois en Ukraine. Et c'est un processus assez important et assez intéressant.
Je souhaiterais, Volodymyr Yermolenko, vous faire entendre le point de vue d'un historien français. Il s'exprimait hier à la télévision française, plus exactement dans l'émission C'est politique sur France 5, et il s'appelle Stéphane Audouin Rouzeau.
Je pense que depuis le début de cette guerre, depuis avant même qu'elle soit commencée, nous sommes dans une situation de déni de guerre. Nous étions dans une situation d'abord de déni de l'attaque potentielle de la Russie. Ensuite, on a été dans le déni de guerre longue. On espérait, avec des négociations qui s'étaient ouvertes, en sortir très vite. On a été dans le déni d'atrocité. On a été tous surpris des atrocités abominables de la Russie, comme si il était possible qu'il n'y en ait pas. Et ensuite, on a espéré que dans la contre-attaque ukrainienne, avec les armements européens qui enfin arrivaient, et pendant tout le printemps et tout l'été 2023, on guettait le moment où l'Ukraine allait enfin percer le front russe. Vous savez, il n'y est pas parvenu. Et maintenant, il me semble, si un cessez-le-feu intervenait, un accord de paix intervenait sur la base de la carte de guerre actuelle, excusez-moi, il faut quand même qu'on reconnaisse que la Russie a gagné la guerre, que l'Ukraine l'a perdue, et nous, hélas, on l'a perdue avec l'Ukraine.
Je voudrais qu'on prenne le temps, Volodymyr Yermolenko, de décortiquer, de déchiffrer ce qui est dit à l'instant par l'historien Stéphane Audouin Rouzeau. D'abord sur le déni de guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Les Occidentaux, les Européens, les Français peut-être en particulier, ont refusé de voir ce qu'ils devaient voir à chaque fois. C'est-à-dire lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, il y avait une guerre de fait, une guerre qui a duré, une guerre qui a engendré des atrocités. Sur ces trois points, il y a eu un déni de guerre. Vous êtes d'accord avec ça?
Et je peux aller un peu plus loin. Ces dénis de guerre a commencé en 2008 par l'agression de la Russie contre la Géorgie. Et je me rappelle très bien quand Nicolas Sarkozy s'est montré comme un grand peacekeeper, comme quelqu'un qui amène la paix. Mmh. Je me rappelle très bien ces mots qu'il a obtenus la fin d'une guerre, mais quand on regarde ce qui s'est passé après, il a ouvert finalement, par cet apaisement, il a ouvert la grande voie vers les agressions russes contre l'Ukraine, les opérations contre la Syrie, etc. Et moi, j'ai peur quand même que dans la situation actuelle, quand l'Europe, donc la position des États-Unis est très très bizarre, et se rapproche de plus en plus de la Russie, que l'Europe est dans une situation de la solitude géopolitique. C'est-à-dire que si la Russie attaque les pays baltes, et ce sont bien sûr dans leur projet, dans leur tête, qu'est-ce qui va se passer? Ou le Finlande, ou la Pologne, qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe? Donc c'est pour cela que je dis que l'Ukraine, maintenant, c'est une partie de solution de l'Europe, la solution sécuritaire, parce que les États-Unis sont de moins en moins... alliés possibles. Mais je ne suis pas quand même d'accord que l'Ukraine a perdu cette guerre.
Alors je voulais vous entendre là-dessus, sur ce déni de défaite, justement.
Non. Je pense que c'est un discours qui n'est pas correct, parce que les ambitions de la Russie, c'était d'être à Kiev pendant 3 jours, d'occuper tout le pays, et finalement, dans quelques années, de lancer une agression contre l'Union européenne. Comme je répète, la grande ambition de la Russie, c'est la revanche contre la défaite dans la guerre froide. Donc je pense que les Ukrainiens sont en train de vaincre cette guerre. Oui, bien sûr, les Russes obtiennent quelques territoires, mais regardez la carte, c'est quand même très minuscule leur occupation. Ils ont pas occupé aucune grande ville depuis 2022. Ils ont occupé Kherson et ils ont dû se retirer de Kherson. Donc je pense que le courage des Ukrainiens et l'assistance, quand même l'aide énorme qui est venue des États-Unis et des Européens et d'autres alliés, on fait la situation que les Ukrainiens sont en train de gagner cette guerre. Et donc, il y a la narration, il y a la guerre dans nos têtes, il y a la guerre psychologique dans laquelle les Russes disent que on n'avait aucune chance, etc. Et malheureusement, l'administration de Trump répète cette grande propagande que la Russie a gagné cette guerre. Moi, je suis vraiment très contre cette idée.
Je voudrais vous citer, Volodymyr Yermolenko, dans un entretien que vous avez donné à la Maison de la Poésie le 11 février dernier. Vous disiez: le paradoxe de cette guerre et de chaque guerre, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je ne connais pas les noms des personnes qui ont sauvé mes enfants. Est-ce que vous pourriez développer cette idée au micro de France Culture ce soir ?
C'est très facile, parce que, comme j'ai dit, pendant 3 ans, chaque nuit, on a des drones russes, iraniens au-dessus de nos têtes, et parfois on attend des explosions juste à côté de nos maisons. Donc, effectivement, il y a des gens, chaque nuit, il y a des gens qui abattent ces drones, et on connaît ces gens-là, on les aide, on les amène des voitures, etc. Mais vraiment, c'est une situation très, très délicate et très touchante, en fait, et parfois très tragique, parce que, bien sûr, nos soldats meurent sur le champ de bataille, et finalement... Chaque mort pendant la guerre, c'est pas la mort individuelle. Chaque mort pendant la guerre, c'est la mort pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une réalité tragique, bien sûr, de chaque guerre. C'est pour cela que, oui, on se réveille chaque matin avec des pensées de gratitude infinie, énorme, par rapport aux personnes qui ont peut-être abattu un drone qui visait notre maison.
Que signifie le mot ukrainien Romada ? Pardonnez-moi d'ailleurs de cet accent, j'aimerais qu'il soit aussi bon que votre accent français, mais le mot Romada, que signifie-t-il et comment vous permet-il justement de penser la guerre dans laquelle vous êtes actuellement immergé ?
Pas le mot Romada, ça veut dire la communauté, c'est-à-dire la communauté organique des gens. Et je pense que c'est ça, il y a une grande différence du modèle politique ukrainien, qui est tout à fait un modèle politique européen aussi, que on pense la politique à partir de la communauté locale.
Ah, la connexion est en train d'être perdu légèrement, alors que vous développiez ce qu'était le concept de Romada, la communauté locale, pour penser justement la politique en Ukraine. On va peut-être lancer le son numéro 2, hein, le son qui permet de comprendre aussi d'entendre plutôt la voix d'un autre philosophe, Jean-Vincent Olyndre, qui explique ce que c'est la guerre qui constitue un ciment.
La guerre constitue un ciment du lien politique. C'est ce que Platon avait très bien vu, c'est-à-dire lorsque les Grecs font la guerre, lorsque la cité athénienne fait la guerre, à travers cette figure de l'hoplite, ce citoyen soldat qui fait la guerre pour sa cité, il y a l'idée du ciment, de l'ordre politique qui est reflété à travers la manière de faire la guerre. Donc lorsque je dis que les Ukrainiens font nation lorsqu'ils font la guerre à la Russie, c'est qu'effectivement, cet événement tragique constitue un moyen de faire l'unité, une unité qui, je dirais pas, faisait difficulté, mais qui n'était peut-être pas aussi évidente avant le conflit.
Volodymyr Yarmolenko, la connexion est rétablie. Merci encore une fois d'être ce soir avec nous. Comment vous réagissez justement à cette analyse qui était exprimée dans les chemins de la philosophie sur France Culture en 2022? Est-ce que la guerre a participé à renforcer la nation ukrainienne, à permettre aux Ukrainiens d'être un peu plus citoyens encore?
Je pense que j'ai un tout petit peu une autre lecture. Je pense que la nation ukrainienne a été déjà assez forte et c'est ça qui a énervé Poutine, qui a énervé la Russie. Et il a essayé plusieurs façons, plusieurs moyens d'attaquer l'Ukraine par des moyens politiques, par des moyens d'information, par des moyens propagande, même culturels. Mais ça n'a pas marché. Donc les outils militaires ont été finalement ces derniers outils. Mais bien sûr, on peut dire que, enfin, je dis toujours que les Ukrainiens, c'est une société malgré, c'est une nation malgré, c'est-à-dire qui agit malgré des défis, qui essaye de trouver la liberté malgré la tyrannie, qui essaye de valoriser la vie malgré la mort autour de nous. Oui, peut-être ça a renforcé aussi, ouais.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui, Volodymyr Yarmolenko, d'être libre en Ukraine malgré la guerre, malgré le conflit qui sévit depuis tant d'années?
Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est la liberté? C'est quand même un concept très, 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 très intéressant. Je pense que la liberté, c'est aussi une capacité d'agir selon tes valeurs et une capacité de choisir tes valeurs et puis les suivre. Et dans ce sens, bien sûr, pendant la guerre, tu es dans les idées, dans les grandes idées, tu es dans les grandes valeurs. Donc, tu penses aux choses qui sont grandes, qui sont pas des choses petites, et qui sont pas les choses de la vie quotidienne. Donc, je pense que oui, ça donne aussi, bien sûr, beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de responsabilité, beaucoup de nécessité. Il faut, c'est pas une liberté dans le sens que je fais tout ce que je veux.
L'écrivain ukrainien Andrei Kourkov expliquait il y a quelques jours que plus d'une centaine d'écrivains, de poètes et de traducteurs avaient été tués dans cette guerre. Cela signifie, je le cite encore, que beaucoup de livres qui auraient dû être écrits n'existeront jamais. C'est la troisième année qui passe, presque son nouveau roman ukrainien. Fin de citation. Là aussi, qu'est-ce que vous pensez, Volodymyr Yarmolenko, de cette tristesse dans les mots d'Andrei Kourkov, de cette culture qui ne parvient pas à exprimer comme elle devrait l'être?
D'un côté, oui, je suis d'accord avec Andri. De l'autre côté, non, je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a beaucoup de productions littéraires qui sont magnifiques maintenant et je suis vraiment au centre de cette production. Il y a beaucoup de poètes qui sont magnifiques, il y a beaucoup de gens qui produisent de la poésie, mais il y a aussi beaucoup de la très bonne prose et il y a beaucoup de littérature qui s'est produite dans les tranchées, dans la ligne de front, par des soldats. Et en fait, j'ai participé à une des éditions qui va paraître bientôt, qui est faite par la Fondation Renaissance, où il y a vraiment des choses extraordinaires, y compris malheureusement par des gens qui ont été déjà tués. Donc je pense que d'un côté, bien sûr, il y a cet aspect de la culture amputée, mais de l'autre côté, il y a cet aspect de la culture malgré cette guerre et malgré la mort, la vie malgré la mort.
Quelle place occupent aujourd'hui les intellectuels ukrainiens dans la société ukrainienne en temps de guerre? Est-ce que leur voix est écoutée, entendue? Est-ce qu'on prête attention aux analyses, à vos analyses même?
Je pense que le débat intellectuel ukrainien est assez de haut niveau. Donc on voit que il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes gens qui viennent à nos événements autour de livres. Il y a des librairies qui s'ouvrent. Donc il y a vraiment des endroits, il y a des foules de gens qui viennent pour des salons de livres. Donc, mon expérience montre, oui, que il y a bien sûr une attention à la, à, à la voix des écrivains, à la voix des philosophes, à la voix des historiens. Il y a la renaissance de l'attention vers l'histoire ukrainienne. Bien sûr, il ne faut pas le surestimer. Donc, on a des tendances les mêmes qui existent partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tyrannie des réseaux sociaux. Mais je dirais que les gens lisent plus que dans les temps de la paix. Ça c'est un paradoxe. Et je pense que ça certifie que la culture, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose de superstructure qui s'ajoute dans les situations où tout est bien. Je pense que culture, c'est une mode de survie aussi. C'est une mode de penser dans les situations difficiles, parce que la pensée parfois et très souvent ça donne des forces pour survivre les situations comme ça.
Merci beaucoup Volodymyr Yermolenko, merci de cet échange en français. Je rappelle que vous êtes philosophe, journaliste et écrivain, vous êtes le président du Pen Club Ukraine, le professeur associé à l'Académie Moïla de Kiev, et vous êtes rédacteur en chef d'UkraineWorld.org. Merci d'être venu au micro de France Culture ce soir.